Par l'amour, un être marivaudien surgit à l'existence dans un étonnement indescriptible. Étonnement est certainement un des mots-clés qui nous ouvre l'univers de Marivaux. Lui-même écrivait « Je voudrais toujours être lu et représenté avec étonnement, ce même étonnement que j'eus à découvrir le monde et moi dans ce monde ». C'est de cet étonnement primordial que sont nés mes personnages. Tous m'ont posé la même question. Que m'arrive-t-il ? À tous, j'ai fait la même réponse. Il vous arrive d'être. Mais être qui ? C'est là que se joue, selon Marivaux, toute la vie, celle de ses personnages, notre vie. C'est là qu'intervient le dialogue permanent qu'il entretient avec eux, les surprises qu'il leur réserve, qui nous réjouissent, les secrets qui se nouent et se dénouent, les épreuves, les méprises, l'imprévu, les disputes révélatrices. L'œuvre de Marivaux est vaste et polymorphe. Il a trouvé très tôt sa vocation d'écrivain et développe petit à petit, et parallèlement, son attachement à plusieurs genres littéraires. Les journaux, les romans et enfin le théâtre. Il ne faut pas essayer de retrouver dans les uns les prémices des autres, mais plutôt, en naviguant à travers ces différents styles, rechercher comment s'élabore pour lui le plaisir de la littérature, les choix de son écriture, l'exploration de l'humain sous toutes ses formes, du point de vue le plus sociologique, comme il a pu le faire dans les lettres sur les habitants de Paris, jusqu'à la partie la plus fine et la plus invisible de ce que recèle le sentiment amoureux ou l'intérieur de l'âme féminine dans les lettres contenant une aventure. Ainsi, théâtre, romans et journaux peuvent se rejoindre et l'on peut se mettre alors à parler de la pleine originalité de Marivaux. Une vie, une œuvre, Marivaux, proposée par Simone Dweck, réalisée par Brigitte Bouvier.
Nous jouons à l'impromptu, monsieur, à l'impromptu. Je n'ai fourni que ce que nous autres beaux esprits appelons le canevas. La simple nature fournira les dialogues et cette nature-là sera bouffonne. Toi, tu joues une maligne soubrette à qui l'on n'en fait point à croire. Et te voilà. Blaise a l'air d'un igo pris sans verre. Et il en fait le rôle. Une petite coquette de village et Colette. C'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout un. Colette trahit Blaise. Je néglige ta flamme. Blaise est un sot qui en pleure. Tu es une diablesse qui t'en est en fureur. Et voilà ma pièce.
Ces pièces sont bien conduites et pleines d'une certaine métaphysique aimable et gracieuse. Ses caractères sont toujours vrais et puisés dans la nature. Sa morale est assaisonnée de tout l'esprit possible. Mais il y a dans ces pièces, d'ailleurs très jolies et très amusantes, un défaut, c'est qu'elle pourrait presque toutes être appelée la surprise de l'amour.
Pourquoi j'ai tant aimé Marivaux et pourquoi, malgré l'apparente fébrilité de ma vie actuelle, Marivaux me manque, c'est parce que c'est tout de même un moment très privilégié, comme en art, s'attarder devant une toile de Chardin ou de Watteau, c'est... Écoutez Mozart, c'est... Marivaux, c'est la garantie d'un retour à soi, hors de l'urgence du monde, hors des pseudo-priorités.
Une vie, une œuvre. Pierre Carlet de Marivaux, 1688-1763. Par Simone Dweck, réalisation Brigitte Bouvier.
C'est aussi s'enchanter de sa propre langue, enfin. C'est s'enchanter de la façon dont Marivaux invente une langue. Cette langue qui a pu paraître si précieuse, si contournée, si complaisante à elle-même pour les contemporains, mais Marivaux n'avait pas le choix pour parler de ces nouveaux territoires où il s'engageait, de ces territoires apparemment très menus, très modestes, qui sont la naissance et l'épanouissement du sentiment et ses obstacles et ses précarités. Il fallait inventer une langue parce que personne n'avait parlé de ça jusqu'à lui.
Ceci est mon testament. Je lègue 60 livres aux pauvres de ma paroisse. Je désire être enterré avec le moins de dépenses et le plus simplement qu'il sera possible. Je veux et demande qu'on fasse dire 50 messes basses le jour de mon enterrement. Je fais et j'institue ma légataire universelle, Mademoiselle Angélique Gabrielle Anquetin de la Chapelle Saint-Jean, et la nomme mon exécutrice testamentaire. Je révoque tout testament et codicille que j'ai pu faire avant ce présent testament. À Paris, ce 20 janvier 1758, Pierre Carlet de Marivaux, de l'Académie française.
On peut se dire que c'est le silence qui l'emporte et que le brillant écrivain qui a fréquenté les salons de Madame de Lambert et de Madame de Tencin, qui s'y est exprimé avec une abondante volubilité, ne nous a rien laissé filtrer, ou si peu, de sa vie, encore moins de son intimité. On l'imagine plutôt assis à côté de ses contemporains, un rien décalé, à les observer, à s'interroger sur ces mystérieux objets que sont les mouvements intérieurs qui nous animent tous. Marivaux explore la seule réalité du sentiment, attachée à deux valeurs de l'ère classique dont il est tout juste sorti, la clarté et le sublime. Mais la clarté, pour dire l'insaisissable et l'implicite du cœur humain, le sublime, identifié au plus haut degré du vrai et du sens, selon les mots de Jean-Paul Sermin. Et Marivaux, suivant les aventures de l'âme, se met à suivre les aventures du langage, de sa propre écriture et des liens qui unissent fiction et réalité. À travers ses journaux, ses romans, son théâtre, il se met à inventer une littérature moderne qui s'interroge sur sa propre essence. On croit voir partout le même genre de style dans mes comédies, écrivait-il, parce que le dialogue y est partout l'expression simple des mouvements du cœur. Mais ce n'est pas moi que j'ai voulu copier, c'est la nature. Et d'Alembert de répondre, naturel et sans recherche, mais peu naturel et affecté, dans ses comédies, auteur d'un singulier jargon, tout à la fois précieux et familier, recherché et monotone. Bref, coupable de marivaudage, un peu enterré dans les bibliothèques, jusqu'à ce que dans les années 50, Frédéric Delofre se mette à le redécouvrir.
J'ai publié tout Marivaux, en fait. Ça, c'est son théâtre, vous voyez, deux gros volumes. J'ai un gros volume pour le Marianne, un gros volume pour le Paysan Parvenu, et un gros volume aussi que j'ai fait avec Michel Gillot, qui reprend les œuvres journalistiques, puisqu'il a écrit Un spectateur français à la façon de Addison, etc. Pendant 30 ans, je peux dire, j'ai vécu à côté de Marivaux. Et surtout, même pour les choses connues, le fait de le voir dans les textes authentiques, ça apporte des aspects tout à fait nouveaux.
Mais alors, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, Frédéric Delofre, de retrouver ce Marivaux?
Ah, c'était... J'en suis encore ravi. Ça a été une grande joie.
Parmi la variété d'écritures auxquelles Marivaux s'essaie, vous dites, Jean-Paul Sermin, qu'il y a un cheminement littéraire. Et il arrive un moment où, dites-vous, il est prêt. Alors, prêt à quoi dans son écriture?
Je crois qu'il est prêt à se libérer de tous les modèles, alors qu'à son époque, au contraire, c'était suivez les modèles, pratiquez les grands auteurs, la littérature classique, et puis progressivement pratiquez les grands auteurs du siècle Louis XIV. Et lui, c'est quelqu'un qui fait la théorie de l'invention, de l'originalité, avec l'idée que chaque culture va... s'intéresser à des choses différentes et que l'homme aussi change, c'est-à-dire que la littérature s'intéresse bien à l'homme, il parle même de science de l'homme pour parler de la littérature, mais à chaque fois elle doit être entièrement reprise à zéro et il est prêt à innover absolument sur tous les terrains possibles et il va saisir toutes les chances qui se présentent à lui. Évidemment la plus reconnue aujourd'hui c'est celle du théâtre, mais là aussi il va se glisser dans un, on pourrait appeler ça un créneau, c'est un terme peut-être un peu trop actuel, mais un domaine, à la fois une troupe, un type de jeu, un nouveau rapport avec le public, où il va pouvoir justement faire quelque chose de neuf et d'entièrement personnel surtout.
Et vous, monsieur, c'était au jeune homme à qui il parlait, avez-vous des affaires, où nous allons? J'y vais voir un seigneur à qui je donnais dernièrement un livre qui vient de paraître et dont je suis l'auteur, dit-il. Ah oui, reprit l'officier, c'est le livre dont nous parlions l'autre jour lorsque nous dînâmes ensemble. C'est cela même, répondit le jeune homme. L'avez-vous lu, monsieur ? Ajouta-t-il. Oui, je le rendis hier à un de mes amis qui me l'avait prêté, dit l'officier. Eh bien, monsieur, dites-moi ce que vous en pensez, je vous prie, répondit le jeune homme. Que feriez-vous de mon sentiment ? Dit l'officier. Il ne déciderait de rien, monsieur. Mais encore, dit l'autre en le pressant beaucoup, comment le trouvez-vous ? En vérité, monsieur, reprit le militaire, je ne sais que vous en dire, je ne suis guère en état d'en juger, ce n'est pas un livre fait pour moi, je suis trop vieux. D'ailleurs, je n'ai point vu le dessin de votre livre, je ne sais à quoi il tend, ni quel en est le but. On dirait que vous ne vous êtes pas donné la peine de chercher des idées, mais que vous avez pris seulement toutes les imaginations qui vous sont venues, ce qui est différent. Dans le premier cas, on travaille, on rejette, on choisit. Dans le second, on prend ce qui se présente, quelque tranche qu'il soit, et il se présente toujours quelque chose, car je pense que l'esprit fournit toujours, bien ou mal.
Mais en fait, tous ces genres auxquels il s'essaie, ce sont des genres qui finalement vont retrouver une unité, parce qu'on peut se demander quel est le fil dans l'œuvre de Marivaux au milieu de tous ces écrits tellement différents.
On pourrait dire que le fil, c'est lui, c'est-à-dire un style, conscience des effets de langage, et puis un goût pour la langue parlée, c'est-à-dire pour les tournures vraiment vivantes. Il y a quelque chose, il y a une sorte de passion de la vie du langage. Il y a aussi une attention à la subjectivité, c'est-à-dire non seulement à la vie intérieure, mais à la manière dont le sujet est confronté au monde, on pourrait dire sans trop de repères donnés de l'extérieur. Ça va avec cette volonté de liberté de l'écrivain, mais ces personnages sont libres, c'est-à-dire que ils vivent des expériences nouvelles et on peut dire que c'est une sorte d'idée de la littérature moderne où le sujet n'est plus encadré par de grands modèles non, il doit faire lui-même l'expérience de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il y a cette sorte de découverte. Et en même temps, les grandes unités de son œuvre, c'est que le sujet est libre, mais en même temps, il va découvrir lui-même des contraintes qui sont des contraintes tout simplement de la vie avec l'autre, c'est-à-dire tout ce qui sera peut-être développé au XXe siècle par Sartre, par exemple. Eh bien, c'est déjà très présent chez Marivaux, le regard d'autrui, la manière dont on doit s'imposer à l'autre et on est en rivalité avec les autres. Donc, il y a cette sorte de relation intersubjective et aussi toutes les contraintes sociales, c'est-à-dire que l'individu à la fois doit se croire libre et s'aventurer, le mot aventure est essentiel chez Marivaux, et en même temps dans cette aventure il découvre toute une série de contraintes, et en particulier s'est beaucoup intéressé aux contraintes qui pèsent spécifiquement sur les femmes. Il y a une sorte de conscience de la dépendance féminine et justement comment s'en sortir, comment l'individu peut malgré tout arriver à une part de liberté et de bonheur. Il y a une sorte de conscience critique un peu pessimiste qui a été mise en valeur par les mises en scène de théâtre surtout. Et puis en même temps il y a l'idée chez lui que l'individu a une chance, a une possibilité de s'en sortir malgré tout, ça dépend de lui. Et donc ce sont des aventures le plus souvent heureuses qu'il nous dépeint parce que l'individu a une chance.
Dire que Marivaux est un grand auteur, le célébrer c'est très bien, mais trouver une œuvre inconnue que personne n'avait lue et que personne ne connaissait, la voici d'ailleurs, et vous voyez ça a été traduit en allemand.
Et alors c'était laquelle, cette œuvre inconnue? Ce sont les œuvres de jeunesse.
C'était le Télémaque travesti, qui est un Marivaux intéressant parce que c'est un Marivaux paysan et burlesque.
Il avait été découvert quand, ce manuscrit du Télémaque?
Ce que j'ai découvert, c'était une édition hollandaise. C'était en 52, puisque ma thèse est de 53.
Alors qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce Télémaque?
Eh bien écoutez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se revit comme Télémaque. Et qui revit ses aventures en compagnie de son oncle, qui est Minerve, qui est Mentor. Et ils retrouvent les aventures de Télémaque en burlesque. Au lieu d'un château, c'est une ferme, etc. Au lieu d'être condamnés à la prison, ils sont condamnés à curer les fossés, etc. Et il y a toutes sortes de détails pittoresques. paysan à la Marivaux. Si bien que ce roman, Coulet, Henri Coulet, prétend que c'est le meilleur roman de Marivaux. C'est pas, je ne crois pas que ce soit vrai. C'est un grand roman, c'est Marianne et le paysan parvenu, mais c'est certainement le plus curieux. C'est le Marivaux où on trouve le plus grand plaisir de la vie, c'est de ronger un os de mouton, par exemple. Ça, on n'attend pas ça de Marivaux, mais vous avez ça. Vous avez des chansons du genre qu'il est bio, notre jeune jouvencio, quand tendre comme un vieux, il vient me dire je t'aime. Ben, c'est du Marivaux, ça. C'est du Marivaux de campagne.
Quand vous dites paysan à la Marivaux, qu'est-ce que ça veut dire ?
Paysans à la Marivaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des paysans. Je pourrais vous montrer des vrais paysans du temps, c'est à 10 mètres d'ici, que j'ai retrouvé. Des paysanneries, des dialogues paysans. Alors là, c'est vraiment authentique. Vous avez la langue des gens de la région parisienne, de Montmorency, de Saint-Ouen, etc. Ici, ce sont des paysans littéraires. C'est des paysans qui sont à la façon des paysans de Molière, des paysans du Don Juan. Autrement dit, ils parlent comme les paysans de la région parisienne, francisés. Évidemment, avec le temps, le patois disparaissait.
Et alors, où est-ce qu'on les retrouve chez Marivaux, ces paysans-là ?
Ces paysans, on les retrouve essentiellement dans son télémarque travesti, puisque ces deux imbéciles, le jeune homme et son oncle, s'en vont et en fait, il leur arrive que des aventures basses et burlesques, qu'ils mettent à la place des aventures du véritable Télémaque. Et ça se passe, si vous voulez, dans le Nivernais, le long de la Loire, à peu près. Leur promenade, c'est une descente de la Loire.
Et que veulent dire les modernes ? Tu m'écartes de mon sujet, mais n'importe. Les modernes ? C'est comme qui dirait toi, par exemple.
Oh, je suis un moderne, moi.
Ah oui, vraiment ? Tu es un moderne et des plus modernes. Il n'y a que l'enfant qui vient de naître qui l'est plus que toi, car il ne fait que d'arriver.
Et pourquoi ton maître nous haïssait-il ?
Parce qu'il voulait qu'on eût 4000 ans sur la tête pour valoir quelque chose. Oh, moi, pour gagner son amitié, je me mis à admirer tout ce qui me paraissait ancien. J'aimais les vieux meubles, je louais les vieilles modes, les vieilles espèces, les médailles, les lunettes. Je me coiffais chez des crieuses de vieux chapeaux. Je n'avais commerce qu'avec des vieillards. Il était charmé de mes inclinations. J'avais la clé de la cave où logeait un certain vin vieux qu'il appelait son vin grec. Il m'en donnait quelquefois et j'en détournais aussi quelques bouteilles par amour, louable pour tout ce qui était vieux.
En effet, on peut s'étonner du fait qu'un certain nombre de ces œuvres, qu'on appelle souvent de jeunesse, aient disparu.
Françoise Rubellin.
Disparu non pas des bibliothèques, mais de tout ce qu'on dit sur Marivaux. Et je pense qu'en effet, c'est parce qu'il se veut académicien, qu'il devient académicien, qu'il va choisir de ne plus parler de ces œuvres qu'on peut appeler aujourd'hui burlesques. Bien peu de gens savent que, avant d'écrire pour le théâtre, avant d'écrire ces deux grands romans, La vie de Marianne et le paysan parvenu, Marivaux d'abord a produit des romans dont certains affichent très clairement leur visée parodique, hein, le Télémaque travesti, Farsamon ou les nouvelles folies romanesques. Il a produit aussi une épopée burlesque qui s'appelle L'Homère travesti ou l'Iliade en vers burlesque. Il a écrit encore un petit ouvrage, un petit conte satirique contre le jeu de Bilboquet qui s'appelle Le Bilboquet. Si Marivaux était mort, par exemple, en 1716, on ne connaîtrait pratiquement que ses écrits burlesques de lui et on ne le verrait pas du tout comme un écrivain conformiste, installé, etc. Donc, ses œuvres burlesques, comme L'Homère travesti, qu'est-ce qu'on y voit, bien que ce ne soit pas encore du théâtre, un goût très fort pour le dialogue. Par exemple, une citation que j'aime beaucoup dans L'Homère travesti, qui fait référence à un problème de versification, c'est la suivante. Du dit seigneur l'infanterie, ainsi que la cavalerie, mises en ordre dans un champ, promirent de verser du sang au moins chacun une carafe. Mais où diable est la rime en af ? J'ai mis ce mot étourdiment. Ça, c'est un exemple d'interruption du récit
comme
adresse au lecteur,
comme une adresse au lecteur, et quelquefois on l'a de manière bien plus forte. À propos, lecteur, je demande s'il est besoin d'écrire grande, car il se fait élision dans la prononciation. Il faudrait ouvrir furetière pour savoir de quelle manière il est bon d'écrire cela. Mais ma foi, je ne l'ai pas là. Furetière, c'est le fameux dictionnaire de l'époque. Donc on voit déjà ce souci de prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'il écrit. Et il me semble que le point commun avec d'autres œuvres déjà de jeunesse, comme La voiture embourbée, où des personnages s'amusent à écrire un roman, ou avec des œuvres postérieures, c'est vraiment la distance, le recul. Ces œuvres de jeunesse, elles sont une forme de laboratoire, si on considère les grands romans qui suivront. Jusqu'où peut-on aller dans le dialogue? Jusqu'où peut-on aller dans le trivial, dans le réaliste? Là, on va jusqu'au trivial, souvent grivois, souvent choquant, scatologique. Mais plus tard, Marivaux ne négligera pas d'introduire, soit dans La vie de Marianne, soit dans Le paysan parvenu, des courtes descriptions qui ont pu même choquer les lecteurs de l'époque.
Le grec, avant que de tirer, Jupiter voulut implorer. « Ô puissant arbitre du monde, c'est sur toi seul que je me fonde, et fonder de cette façon, c'est d'être mieux qu'une maison. Fais que ce dard attrape et touche l'endroit par où Paris se mouche, que pénétrant jusqu'au cerveau, Paris de peur cria « Tout beau !» Le trait parti, la malpeste, il a percé jusqu'à ma veste, dit alors notre homme visé. Si je n'avais pas un peu biaisé, je crois, ma foi, que ma tripaille restait sur le champ de bataille. Tu vises encore, dit Ménélas. Et pourquoi ne vivrais-je pas? Prends donc garde à ce coup d'épée. Paf! Oh, mon attente est trompée, mon fer est brisé, ton airain s'oppose à l'effort de ma main. « Mais vraiment, exprès je le porte pour qu'il en use de la sorte, » dit-il, pendant que l'ennemi blasphémait en diable et demi contre le grand dieu du tonnerre qu'il appelle un malin compère. « Il vaut, » dit-il, « autant prier ou sa pantoufle ou son soulier, j'ai prié ce maître du monde d'une piété sans seconde et j'en suis si bien exaucé que j'en obtiens un fer cassé. »
Alors, ce qu'il appelle le burlesque, quand il écrit par exemple Homère travesti en vers burlesque, c'est très clairement un burlesque à la manière de Scarron. On pourrait dire que Marivaux vient trop tard, puisque la grande mode du burlesque, c'est le milieu du XVIIe siècle. Scarron a illustré cette grande vogue avec son Virgile travesti, qui est une parodie de l'Énéide, enfin un travestissement burlesque. Donc on pourrait se demander pourquoi Marivaux reprend cela. Pour y répondre, il faut se rappeler que les années 1714 voient éclore en France ce qu'on appelait la seconde querelle des anciens et des modernes autour d'Homère, que Marivaux va faire partie du camp des modernes avec son ami Oudard de la Motte, accusé d'avoir fait une réduction, réécriture de l'Iliade. Et Marivaux donc profite en quelque sorte de cette remise à l'honneur d'Homère avec la seconde querelle dite homérique, pour se livrer à cet exercice de travestissement burlesque.
Donc, est-ce que vous pouvez rappeler quels étaient finalement les termes, les enjeux de cette seconde querelle des anciens et des modernes à ce moment-là, et comment Marivaux s'y insère?
Voilà, la seconde querelle des anciens et des modernes éclate lorsque Oudard de la Motte ose faire paraître une traduction, soi-disant, d'Homère, dans laquelle il annonce d'entrée de jeu que Homère est souvent long, ennuyeux, parfois grossier, qu'il l'a réduit à 12 chants au lieu de 24, et ce faisant, il déclare la guerre à la plus grande helléniste de l'époque, qui était Madame Dacier, qui en 1711 avait publié une nouvelle traduction de l'Iliade. Donc on retrouve les arguments de la première querelle des anciens et des modernes qui avait lieu à la fin du XVIIe siècle.
Et donc Marivaux, là-dessus, force un peu le trait, non ?
Marivaux, très clairement, à mon avis, s'amuse avec son Homère travesti, se moque du respect sacro-saint de l'Antiquité. On le voit bien aussi quand il parodie Télémaque, quand il écrit le Télémaque travesti, il part du Télémaque de Fénelon, qui lui-même partait de l'Odyssée d'Homère. Et puis on va tomber dans le trivial, dans le grotesque, dans la description d'une cuisine sale, d'une servante d'auberge, etc. Et je pense que Marivaux cherche à ce moment comment décrire le monde, comment d'une certaine façon, même si le mot ne veut rien dire à l'époque, être réaliste, mais il prend ce chemin par le biais de la réécriture.
Et de la provocation.
Et de la provocation, très certainement, dans L'Homère travesti, il s'agit bien de provocation. On va voir abonder tout le vocabulaire scatologique traditionnel, l'écu, l'épée, que ce soit Ulysse, que ce soit Achille, que ce soit même Agamemnon. J'aime beaucoup, lorsqu'on raconte le songe trompeur d'Agamemnon, les dieux lui envoient un songe pour le convaincre d'aller combattre à Troie. Mais transposé chez Marivaux, ça donne une sorte de cauchemar, ou plus exactement, une vision bien trompeuse. Et puis Agamemnon qui se réveille ainsi, dans un transport, mais pas vraiment de cauchemar, de joie plutôt. Mais son réveil fut la ruine du pot contenant son urine. Ce pot sur une chaise était, il chut quand il se transportait. Un valet entra dans sa chambre, qui certes ne sentait pas l'ambre. Il se boucha le nez et dit « Atride a pissé dans son lit ». Ça, on aurait de la peine à faire admettre à un de nos contemporains que c'est du Marivaux.
Alors il y a une gravure d'ailleurs qui est très éloquente, une gravure que l'on oppose à la gravure illustrant le livre 2 de l'Iliade de la Motte.
Oui, la vision satirique et même je pourrais dire les enjeux idéologiques de Marivaux apparaissent dans les gravures qu'un graveur anonyme a réalisées pour illustrer l'Homère travesti. Un pot de chambre remplace, c'est exactement au même endroit, la couronne de la gravure d'origine. Une pipe et du tabac remplacent un sceptre. Et on voit qu'il y a une condamnation de la guerre, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais je me la pose, pourquoi Marivaux est en train d'écrire cet Homère travesti dans les années 1715. C'est la fin du règne de Louis XIV, il meurt en septembre 1715. Et puis il y a une condamnation de toutes ces guerres qui ont assombri la fin de l'époque de Louis XIV. Il y a une condamnation du sang versé gratuitement, du côté inhumain de la guerre. Et ça, c'est un trait fondamental de l'humanisme de Marivaux, qu'on retrouvera d'ailleurs dans ses journaux.
Sixième feuille, 27 avril 1722. Je m'amusais l'autre jour dans la boutique d'un libraire à regarder des livres. Il y vint un homme âgé qui, à la mine, me parut homme d'esprit grave. Il demanda au libraire, mais d'un air de bon connaisseur, s'il n'avait rien de nouveau. « J'ai le Spectateur, » lui répondit le libraire. Là-dessus, mon homme mit la main sur un gros livre dont la reliure était neuve et lui dit « Est-ce cela ?»« Non, monsieur, » reprit le libraire, « le Spectateur ne paraît que par feuilles, et le voilà. »« Fi !» répartit l'autre, « que voulez-vous qu'on fasse de ces feuilles-là ? Cela ne peut être rempli que de fadaises, et vous êtes bien de loisir d'imprimer de pareilles choses. » « L'avez-vous lu, ce Spectateur ? » lui dit le libraire. « Moi, le lire, » répondit-il. « Non, je ne lis que du bon, du raisonnable, de l'instructif. » Et ce qu'il me faut n'est pas dans vos feuilles. Ce ne sont ordinairement que de petits ouvrages de jeunes gens qui ont quelques vivacités d'écoliers, quelques saillies plus étourdies que brillantes, et qui prennent les mauvaises contorsions de leur esprit pour des façons de penser légères, délicates et cavalières. Je n'en veux point, mon cher. Je ne suis point curieux d'originalité puérile. »
C'est quelque chose d'assez singulier parce que ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui. La presse est une presse qui n'est pas périodique, hein, ce sont plutôt des revues, hein, disons, cultivées et parfois même savantes et spécialisées. La presse périodique ne se développe vraiment qu'au moment de la Révolution. Et en Angleterre, où la presse était beaucoup plus déjà développée, et là, il y avait une presse politique, par exemple, deux écrivains du début du XVIIIe, hein, Addison et Steele, inventent quelque chose en marge de ce qui est alors la presse politique. Et ils écrivent plusieurs journaux, mais un qui est vraiment un journal, c'est-à-dire qu'il paraît cinq fois par semaine, c'est le Spectator, le Spectateur. Et ce Spectateur, là, ils inventent aussi un personnage fictif de journaliste, dont ils disent qu'il est le spectateur de la société, donc qui va observer les mœurs, mais aussi qui va rapporter des faits divers, faire le compte-rendu des spectacles, etc. Et ce spectateur a un des traits particuliers, c'est que il paraît tous les jours et ils disent, au fond, nous avons fait passer la philosophie autour de la table du salon au moment où on prend le thé. Hein. Donc ça va s'intégrer à la vie quotidienne des gens. Mais c'est pas quelque chose qui porte sur l'actualité politique, hein. C'est plutôt la vie quotidienne, la vie de chacun. Alors Marivaux va adapter cela, il va pas du tout le reprendre parce que c'est pas l'homme des grandes entreprises et des grandes contraintes. On l'a dit, il ne veut pas de contraintes, donc l'idée de faire un journal qu'il publierait tous les jours, non, c'est impossible. Mais il garde l'idée d'un texte très mobile, justement. Il appelle ça des feuilles volantes parce que c'était imprimé sur une feuille, hein, qui pouvait être pliée, et puis ensuite, au bout d'un certain nombre de numéros, on pouvait les recueillir en volume. Et cette feuille volante lui convient très bien. Donc il écrit un premier journal qui s'appelle Le Spectateur français, hein. Un autre qui est une forme un peu intermédiaire s'appelle L'Indigent philosophe, et l'autre, le troisième, Le Cabinet du philosophe, sur un laps de temps d'une quinzaine d'années environ. Et ça lui convient très bien parce que il peut non seulement changer de sujet à chaque numéro, mais dans chaque numéro aborder toute une série de sujets. Et puis ça lui permet aussi de changer, puisque il va s'en servir effectivement pour essayer, hein, des manières d'écrire, des sujets, et en particulier, hein, toute une série de petits récits, de nouvelles, qui sont presque toujours des expériences d'écriture. Voilà. Donc le Spectateur français se présente, première feuille, hein, c'est feuille volante, premier numéro. Marivaux s'amuse tout de suite. Il dit oui, je suis, ça se présente comme un homme âgé, un homme qui est revenu de tout, enfin qui raconte une expérience amoureuse qu'il a beaucoup déçu, qui a décidé d'être misanthrope. Et donc d'observer le monde sans y goûter, etc. Et donc d'emblée, c'est un personnage qui est aux antipodes de ce qu'est l'écrivain Marivaux à l'époque, qui est jeune, qui vient d'avoir des succès éclatants au théâtre, qui fréquente les salons, et donc Marivaux invente une posture qui est à l'évidence à l'opposé de la sienne. Alors ça, c'est ce premier roman. Et puis dans ses autres journaux, il inventera d'autres personnages comme ça, toujours un petit peu à l'écart des enchantés, qui ne veulent plus vivre, qui ne veulent plus qu'observer. Alors donc, dans les journaux, il va imaginer qu'il y a des gens qui écrivent des lettres, où il y a des rencontres, et ces lettres ou ces rencontres sont comme des petites nouvelles, hein, où certains lecteurs sont tentés d'interpréter tout ce qu'ils trouvent, en particulier dans les journaux, parce que les journaux se disent « je », et puis ces journalistes disent parfois des choses qui correspondent exactement à la pensée de Marivaux, on se dit « mais ça, c'est Marivaux ». Non, il y a toujours cet écran de personnages fictifs, hein, il les fait parler à la première personne, avec beaucoup de tellement de talent qu'effectivement on y croit, on croit que c'est eux qui parlent, qu'il y a une Marianne, qu'il y a un Jacob, qu'il y a une vieille dame, qu'il y a un indigent philosophe, etc. Mais non, je crois que ça fait partie de cette idée que l'individu ne peut pas lui-même avoir la claire compréhension, la claire conscience de sa situation, et que c'est l'écrivain qui peut faire apparaître par la construction littéraire, c'est-à-dire la construction d'une histoire, la mise en rapport de certains fragments, etc. Donc, va apparaître au lecteur des choses que, évidemment, l'auteur a calculées, a prévues, qui permettent de réfléchir sur la situation de ce personnage romanesque, on peut dire.
Je ne sais si ce roman plaira, la tournure m'en paraît plaisante, le comique divertissant, le merveilleux assez nouveau, les transitions assez naturelles, et le mélange bizarre de tous ces différents goûts lui donne totalement un air extraordinaire, qui doit faire espérer qu'il divertira plus qu'il n'ennuiera, et... Mais il me semble que je commence bien mal ma préface, il n'y a qu'à suivre mes conclusions. C'est un livre dont le comique est plaisant, les transitions naturelles, le merveilleux nouveau... Si cela est, l'ouvrage est beau. Mais qui le dit ? C'est moi, c'est l'auteur.
À l'époque, on condamne le roman comme œuvre extravagante de fiction. Le roman n'est pas admis. En mettant à distance tout ce qui est l'écriture du roman, les conventions, les épîtres dédicatoires et les préfaces, Marivaux montre à son lecteur qu'il cherche un ton plus vrai. Et ça, on va le retrouver dans le théâtre. Il cherche à aller au fond des cœurs. Il ne s'encombre pas des conventions, des traditions. Et il installe un rapport de complicité avec son lecteur, ce qu'on voit déjà dans la préface de La voiture embourbée, dans L'Homère travesti, puis qui va faire ce ton particulier, je pense, de son théâtre et de ses romans.
Et alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, quand il entre à l'Académie, il refuse cette espèce de liberté, justement, qu'il a défendue et qu'il a pris du temps à défendre?
Ce n'est peut-être pas le fait d'entrer à l'Académie. Cette date d'entrée à l'Académie, c'est un point de repère pour nous faire mesurer l'évolution de sa carrière. Mais je pense que, petit à petit, dès les années 1730, lorsqu'il écrit par exemple Le jeu de l'amour et du hasard, et puis quand il commence La vie de Marianne, dès ces années-là, il y a un tournant qui se fait dans le siècle. D'abord, le siècle petit à petit va s'embourgeoiser, va aller vers plus de sentimentalisme. On va voir advenir ce qu'on appelle la comédie larmoyante, la comédie sérieuse. On ira vers le drame bourgeois. Donc il y a l'époque qui va vers plus de sérieux et qui tient à distance les productions trop satirique et en tout cas tout ce qui est italien, on en reparlera dans le théâtre de Marivaux. Et d'autre part, dans la vie même de Marivaux, dont on sait fort peu de choses, on peut considérer que à partir des années 30-40, Marivaux va choisir d'aller plus vers la réflexion, va se trouver davantage porté vers des interrogations d'ordre humaniste, quelquefois métaphysique. Il a commencé depuis longtemps ses journaux également, mais tout cela l'amène à être plus un penseur du genre humain qu'un homme qui voudrait mettre en avant ses essais, hein, cette verve satirique qu'il abandonne en effet. Mais ce n'est pas le fait même d'entrer à l'Académie. On pourrait dire que déjà avant, quand il a essayé d'y entrer, des années avant, il taisait ses productions dont il n'était pas fier, et qu'avant même justement d'entrer à l'Académie, il a désavoué Le Télémaque travesti lorsqu'il a été publié.
Scène 9. Sylvia, une de ses cousines. La scène change et représente une prairie où de loin paissent des moutons. Sylvia. Arrête-toi un moment, ma cousine. Je t'aurai bientôt conté mon histoire et tu me donneras quelque avis. Tiens. J'étais ici quand il est venu. Dès qu'il s'est approché, le cœur m'a dit que je l'aimais. Cela est admirable. Il s'est approché aussi. Il m'a parlé. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Qu'il m'aimait aussi. J'étais plus contente que si on m'avait donné tous les moutons du hameau. Vraiment, je ne m'étonne pas si toutes nos bergères sont si aises d'aimer. Je voudrais n'avoir fait que cela depuis que je suis au monde, tant je le trouve charmant. Mais ce n'est pas tout. Il doit revenir ici bientôt. Il m'a déjà baisé la main, et je vois bien qu'il voudra me la baiser encore. Donne-moi conseil, toi qui as eu tant d'amants, dois-je le laisser faire? Garde-t'en bien, ma cousine. Sois bien sévère, cela entretient l'amour d'un amant. Quoi? Il n'y a point de moyen plus aisé que cela pour l'entretenir? Non, il ne faut point aussi lui dire tant que tu l'aimes. Comment s'en empêcher? Je suis encore trop jeune pour pouvoir me gêner. Fais comme tu pourras. Mais on m'attend, je ne puis rester plus longtemps. Adieu, ma cousine.
Arlequin poli par l'amour, on ne le joue plus du tout comme on le jouait il y a 60 ans. Parce qu'il y a 60 ans, on ignorait la bonne édition de ce texte. Je pourrais vous lire un bout de scène de Marivaux qui avait disparu des éditions, une indication scénique simplement, et qui est très intéressante parce que c'est toute l'esthétique de Marivaux. L'esthétique à la fois de la finesse, de l'économie, de la tendresse, et à la fois aussi du regard en même temps que de la parole. Alors c'est un petit bout de scène. Si vous me permettez. Eh bien voilà, j'ai marqué la page. C'est dans Arlequin poli par l'amour. Alors Arlequin a été enlevé par une fée, mais il ne s'intéresse pas du tout à la fée, il ne s'intéresse qu'à manger et à lui prendre des bagues. Et alors il se promène, et voici la scène. Sylvia Arlequin. Sylvia est là, elle a été avec un berger qui lui a fait l'amour et qu'elle a envoyé promener. Quand je dis faire l'amour au sens du temps, bien entendu. Et alors Sylvia, que ce berger me déplaît avec son amour, toutes les fois qu'il me parle, je suis toute de méchante humeur. Et puis voyant Arlequin, mais qui est-ce qui vient? Ah mon Dieu, le beau garçon. Et alors il y a tout un jeu de scène ici qui avait été supprimé, que la Comédie française ne connaissait plus, et voici le jeu de scène. Arlequin entre en jouant au volant. Il vient de cette façon jusqu'au pied de Sylvia. Là, il laisse en jouant tomber le volant. Et en se baissant pour le ramasser, il voit Sylvia. Il demeure étonné et courbé. Petit à petit, et par secousses, il se redresse le corps. Quand il s'est entièrement redressé, il la regarde. Jusque-là, il ne la regardait pas. Elle, honteuse, feint de se retirer dans son embarras, il l'arrête et il dit « Vous êtes bien pressée ?» Alors vous voyez, c'est le passage d'Arlequin, qui est un rustre, un gourmand, un paysan, qui s'éveille d'un seul coup. Mais alors il s'éveille à la fin, comme une bête qui tombe en arrêt devant quelque chose. Il voit Sylvia et il dit « Vous êtes bien pressé. » Ça n'est rien. Et c'est tout Marivaux. Marivaux dit énormément de choses avec peu de mots.
Comment vient-il au théâtre? On peut le dire en deux mots. Il se trouve qu'en 1720, on va jouer simultanément de lui une pièce à la Comédie française et une pièce à la Comédie italienne. Et pour le dire vite, il se trouve que la pièce de la Comédie française ne réussit pas du tout. C'est Hannibal, c'est une tragédie. Et celle de la Comédie italienne, Arlequin poli par l'amour, réussit. À partir de là, Marivaux va rester pour tout le reste de sa carrière d'auteur dramatique, dans la veine de la comédie. À une exception près, Henri Lagrave a retrouvé en 1972 un fragment de tragédie qu'on attribue à Marivaux. Mais il va choisir la comédie pour 38 pièces.
Et s'appelle comment ce fragment de tragédie?
Le fragment retrouvé s'appelle Mahomet II.
Alors, donc, le théâtre et la troupe italienne, ça aussi c'est quelque chose de très important, de décisif à la limite pour son écriture du théâtre, pour l'écriture des personnages. Cette troupe italienne qui arrive à Paris est un peu différente, je crois, de la troupe traditionnelle italienne de la Commedia dell'arte.
Oui, elle est très différente, disons que c'est complètement une autre. Il faut se rappeler que l'ancienne comédie italienne, celle qu'on appelle ainsi, avait été fermée par Louis XIV brutalement en 1697. D'une part parce qu'on accusait cette troupe de préparer une pièce contre Madame de Maintenon, d'autre part parce que les comédiens français qui avaient bien peu de public étaient fort jaloux et faisaient pression, et enfin parce que, et surtout, la comédie italienne a été perçue comme très satirique, très libre, subversive. Louis XIV a fait fermer l'ancien théâtre italien et il a chassé de Paris les acteurs. Dès que Louis XIV meurt, 1715, il faut dire que la première mesure de politique culturelle de son successeur, qui est le régent, c'est de commander le retour d'une nouvelle troupe d'Italie, qu'on fasse venir d'Italie une nouvelle troupe de comédiens italiens, troupe qui va jouer pour la première fois au printemps 1716. On ne sait pas ce que fait Marivaux en 1716, mais il est certain qu'il est à Paris, qu'il va voir cette troupe et qu'il va proposer des pièces. La nouvelle troupe, c'est celle de Luigi Riccoboni, Di Lelio, et il est important de voir combien ces acteurs, son mode de jeu, a compté pour l'écriture marivaudienne. Je peux donner comme exemple l'exemple super canonique de Sylvia, dont les gens se demandent si elle était ou non la maîtresse de Marivaux. Mais ça, ce n'est pas du tout important. Sylvia, c'était une actrice jeune, très belle et très habile, très bonne actrice dans la nouvelle troupe. Et Sylvia va écrire les pièces pour elle, donc ne prend même pas le soin, souvent, de changer le nom du personnage. Il laisse Sylvia. Pensons au jeu de l'amour et du hasard, mais pensons bien avant à Arlequin poli par l'amour, pensons à la double inconstance, on garde le nom de Sylvia. Il va donc y avoir une interaction très forte entre les comédiens de la nouvelle troupe et l'auteur.
Expliquons-nous après.
Est-ce que nous avons quelque chose à nous dire?
Oui, sur Sylvia.
Sylvia.
Hélas, je vous demande pardon, voyez ce que c'est, je ne savais pas que j'avais à vous parler.
Vous l'avez perdu depuis 2 jours.
Oui. Des voleurs me l'ont dérobé.
Ce sont point des voleurs.
Enfin, si ce ne sont pas des voleurs, ce sont toujours des fripons.
Je sais où elle est.
Vous savez où elle est? Oh, mon ami, mon valet, mon maître, mon tout ce qu'il vous plaira! Oh, que je suis fâché de n'être point riche! Je vous donnerai tous mes revenus pour gage. Dites, honnête homme, de quel côté faut-il tourner? Est-ce à droite, à gauche ou tout devant moi?
Vous la verrez ici.
Oh, Sylvia, cher enfant de mon âme, mamie, je pleure de joie.
De la façon dont ce drôle l'a prélude, il ne nous promet rien de bon. Écoutez, j'ai bien autre chose à vous dire.
Mais allons d'abord voir Sylvia, prenez pitié de mon impatience.
Je vous dis que vous la verrez.
Je me suis toujours enchanté de ce portrait de Marivaux qu'avait fait son contemporain Van Loo. Et il y a comme si Marivaux nous regardait.
Jacques Lassalle.
Avec infiniment de sympathie, presque comme une complicité, comme quelque chose de très fraternellement proche, et en même temps comme une distance ménagée. Comme je vous souhaite de prendre le même plaisir que moi. Au fait singulier, étonnant, troublant de vivre et d'aimer.
Parce que c'est lui, au fond, qui est toujours étonné de,
voilà,
de toujours, ce qu'il écrit, non ?
Voilà, toujours dans cet état d'étonnement. Je pense que un des mystères de la vie de Marivaux, c'est une vie extrêmement discrète, extrêmement simple, avec quelques moments forts, la rencontre évidemment de la troupe des Italiens. Là aussi, il faudrait parler de ça, enfin du paradoxe qu'il y a à ce théâtre qui a atteint à une telle virtuosité, une telle complexité dans le maniement de la langue, et qui préfère par-dessus tout des acteurs physiques, des acteurs corporels, des acteurs qui parlent vite et qui n'ont jamais l'air de penser à ce qu'ils disent. Marivaux a horreur de tout ce qui est compassé, de ce qui est annoncé, de ce qui est... Voilà. Jouer Marivaux, c'est retrouver l'étonnement et l'innocence. Voilà, les choses jaillissent. Les états, les plaisirs, apparaissent presque toujours comme des révélations fugaces, rapides. Voilà. Et je pense que Marivaux s'ennuyait beaucoup avec les acteurs français, qui ont beaucoup changé, mais qui avaient tendance, évidemment, à souligner... comment dirais-je, à mettre en évidence l'élégance extrême de la langue, son caractère presque sophistiqué. Alors que les Italiens la jouaient sans aucune intimidation, de façon extraordinairement spontanée. Ils la réinventaient, ils se l'appropriaient vivement. Et ils faisaient semblant de faire semblant, ce qui est la grande règle marivaudienne. Oui. L'acteur moyen fait semblant. Je fais comme si. L'acteur marivaudien, le grand acteur marivaudien, il fait semblant de faire semblant. C'est la règle d'or du théâtre de Marivaux. Je fais semblant d'éprouver ce que j'éprouve vraiment. Je fais semblant de penser ce que je pense pourtant vraiment. Je fais semblant de paraître ce que je suis, fondamentalement.
Et à travers tout ce jeu du masque, ou du mensonge, ou du faux mensonge, je fais semblant de mentir, je sais pas... À travers tout cela, c'est la sincérité.
Je fais semblant de mentir, oui. Et je ne sais pas toujours que je fais semblant. Mais je ne fais que semblant. En fait, c'est toute la question, oui, du mensonge et de la vérité, de l'apparence. Mais pour Marivaux, atteindre au vrai, c'est faire le détour du faux. Atteindre à la nudité de l'aveu, c'est passer par le détour du stratagème, du mensonge, de la... vérité, de la réalité. C'est tout ce jeu-là. Voilà.
Je viens de relire ce que j'ai écrit la dernière fois, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Ma foi, je l'ai trouvé bon. C'est de l'excellente morale. Mais à propos de morale, je m'avise de penser que celle que j'ai mise la dernière fois fera une plaisante bigarrure avec ce qui la précède. D'abord, on voit un homme gaillard qui se plaît au discours d'un camarade ivrogne. Et puis tout d'un coup, ce gaillard, sans dire gare, tombe dans les réflexions les plus sérieuses. Cela n'est pas dans les règles, ne dites pas vrai? Cela fait un ouvrage bien extraordinaire, bien bizarre. Et tant mieux, cela le fait naturel, cela nous ressemble. Et je serais bien fâché que cela fût autrement. Car je veux qu'on trouve de tout dans mon livre. Je veux que les gens sérieux, les gais, les tristes, quelquefois les fous, enfin, que tout le monde me cite. Et vous verrez qu'on me citera. Bref, je veux être un homme et non pas un auteur. Et ainsi, donner ce que mon esprit fait, non pas ce que je lui ferai faire. Aussi, je ne vous promets rien, je ne jure de rien. Mais si je vous ennuie, je ne vous ai pas dit que cela n'arriverait pas. Si je vous amuse, je n'y suis pas obligé, je ne vous dois rien. Ainsi, le plaisir que je vous donne est un présent que je vous fais. Et si par hasard je vous instruis, je suis un homme magnifique, et vous voilà comblé de mes grâces.
Il n'est pas philosophe au sens où Descartes ou Kant sont des philosophes. Hein. Alors, est-il philosophe au sens où le sont, je ne sais pas, Diderot et Rousseau ou Montesquieu? Là aussi, encore une fois, avec Marivaux, c'est pas toujours simple. Hein. On pourrait dire oui et non. Hein. C'est-à-dire non dans le sens où il a, disons, écrit peu de textes purement théoriques. Il n'a pas proposé de programme politique. De ce point de vue-là, il se sépare de ses écrivains reconnus comme littérateurs-philosophes. Mais je crois qu'il est philosophe parce que, pour lui, c'est tellement important que le spectateur et le lecteur soient amenés à réfléchir hein, non seulement sur ce que dit le personnage, mais sur les conditions dans lesquelles il se trouve, conditions de discours, conditions sociales, conditions historiques. Hein. Donc il y a cette volonté d'amener le lecteur à réfléchir, hein, qui pour moi procède de la philosophie.
Nous négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont les esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. C'est leur coutume, mon cher Jean, de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter en esclavage.
Et chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure, je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi.
Cela est vrai.
Et encore vous tournez.
Mais je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être la vie.
Alors, l'île des esclaves, c'est une pièce très violente. À la lecture, elle est violente. Au regard de votre mise en scène, elle l'est encore plus. C'est-à-dire que vous avez tiré de Marivaux, peut-être, la plus grande violence qui soit, la plus grande violence qui soit dans son écriture et dans son théâtre.
C'est un théâtre de la cruauté. Hein. Trivelin dit amener une parole qui propose un monde plus égalitaire. Mais dans les faits, il l'impose à travers une expérience qui est très difficile pour les maîtres. Et puis, a posteriori, dans un deuxième temps, on va s'apercevoir qu'elle est très difficile pour les valets, parce que tout le monde boit la tasse.
Marivaux, il résonne sûrement uniquement en moraliste, c'est-à-dire qu'au fond, l'important, c'est que les personnages terminent ce parcours meilleur qu'ils ne l'ont commencé.
Catherine Nicolas.
Il est dans une réflexion sur quelque chose qui est de l'ordre du cœur, et non pas quelque chose qui est de l'ordre du politique, puisque finalement, ils sont dans la même situation sociale ou politique à la fin, mais ils sont devenus meilleurs.
Et c'est là qu'existe l'utopie, puisqu'il les laisse à la fin de la pièce en disant « vous allez retourner chez vous ». Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça?
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire donc d'interversion de rôle social qu'il consomme véritablement, alors que par exemple, dans des pièces comme Le jeu de l'amour et du hasard, il n'y a pas d'interversion sociale. Au fond, le valet tombe amoureux de la servante et le maître de la maîtresse.
Oui, mais là, par exemple, sur cette pièce-là, il y a interversion sociale, mais par exemple, la question de l'amour est complètement mise de côté. Oui. En toute logique marivaudienne, Iphicrate et Euphrosyne devraient tomber amoureux. Or, ils ne tombent pas amoureux ici, comme si la question était complètement déplacée. Et du coup, on se dit que c'est un fonctionnement qui est très peu marivaudien, au fond, et que du coup, cette absence d'amour pose là aussi question. Sans doute n'est-il pas possible de tomber amoureux quand on est dans un tel état de survie, finalement, puisque les deux maîtres sont dans un état de survie. Ou peut-être n'y a-t-il pas possibilité de tomber amoureux parce qu'au fond, ils n'ont pas d'intimité. Ils sont en permanence sous le regard des autres. Et du coup, c'est une pièce qui fonctionne de façon très, très particulière par rapport à cela.
Dans la dispute, il construit une expérience avec justement des êtres qui ne se sont pas rencontrés, qu'on utilise, qu'on met l'un face à l'autre pour voir comment les gens vont réagir les uns aux autres. On a la même sensation là, puisque soi-disant, ils ont fait le voyage ensemble. Ils ne se connaissent pas, il n'y a jamais de contact, il n'y a jamais de proximité entre les maîtres, ils sont complètement isolés. Et même les valets, ils se découvrent. Donc, on a vraiment ce côté, j'ai besoin d'une de faire une expérience, je prends un valet type, un maître type. C'est-à-dire, ils sont quatre, c'est le quatuor nécessaire à l'action, et rien de plus. Donc, il y a quelque chose de vraiment au scalpel à l'intérieur de la pièce de Marivaux. Et ça, ça nous a aidé justement à pousser, on le voit avec un dispositif qui est quand même assez lumineux, quelque chose qui est proche de l'expérience, en fait, du laboratoire pratiquement, avec aussi les costumes des maîtres saturés de rouge et de rose, les costumes des valets en bleu, ce qui se rapproche du bleu de travail, en tout cas, vraiment être sur des figures plus que des personnages. On a fait un gros travail sur l'analyse aussi de la longueur des phrases, des mots employés par chacun à travers la pièce. Et on s'est aperçu qu'il y avait un système de vases communicants. Plus les maîtres perdaient la parole, plus les valets la gagnaient. Et bon, la scène la plus symptomatique là-dessus, c'est celle où Cléantis fait le portrait de sa maîtresse. Ses premiers mots, ce ne sont que des mots mis bout à bout. Elle ne fait pas de phrases, elle dit avoir beaucoup de choses à dire, mais elle demande d'être interrogée parce qu'elle ne voit pas comment formuler sa pensée. Et puis tout doucement, la personne qui dirige l'île l'interroge et la conduit dans sa réflexion. Alors, elle dit « Bon, bien, je ne sais pas quoi dire, madame fait ça, elle fait ça, elle fait ça. » Et donc, elle fait juste des petites images les unes à côté des autres, et puis tout doucement, le lien se fait, et elle commence à faire des phrases, elle commence à maîtriser la langue, et avec le pouvoir de la langue, elle gagne vraiment le pouvoir d'être. Avec une forme aussi de pathologie dans le rapport à la langue, où à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps, il va devenir boulimique et avaler plus qu'il n'en faut et vomir. Voilà.
Et d'un autre côté, les maîtres, alors, perdent le langage.
Perdent le langage, et il y a une aporie totale, jusqu'à la scène où on retrouve la maîtresse avec le valet, qui veut abuser d'elle, et elle ne s'exprime plus qu'en deux mots, un mot. Même on a déstructuré les mots pour encore travailler plus dans la perdition, jusqu'au moment où elle est vraiment confrontée à l'extrême de sa situation, puisque on va tenter d'abuser de sa dignité de femme. Et là, d'un seul coup, la langue se lâche et c'est pas qu'elle construit un discours qui la sauve, c'est que d'un seul coup, lui échappe un discours qui la sauve, puisque c'est par ces paroles-là qu'elle va arriver à mettre un terme à l'action du valet sur elle.
Scène 4. Aiglé, un instant seul, Azor paraît vis-à-vis d'elle. Aiglé, continuant et se tâtant le visage. Je ne me lasse point de moi. Et puis, apercevant Azor. Qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi? N'approchez point. La personne rit. On dirait qu'elle m'admire. Azor fait un pas. Attendez. Ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Azor. Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous me ravissez. Tant mieux. Vous m'enchantez, vous me plaisez aussi. Pourquoi donc me défendez-vous d'avancer? Je ne vous le défends plus de bon cœur. Je vais donc approcher. J'en ai bien envie. Il avance. Arrêtez un peu. Que je suis émue.
J'obéis car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait afin d'être à moi de plus près. Il vient. Ah, la voilà, c'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je meurs de joie d'être auprès de vous. Je me donne à vous. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. Eh, c'est tout comme moi. Je suis heureux. Je suis agité. Je soupire.
Chez Marivaux, il y a évidemment et d'abord un théâtre du langage. C'est une aventure de la langue. On pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'autre action, qu'il n'y a pas d'autre événement que celui de la parole, que celui de la langue. Cela dit, il me semblait important dans le jeu de l'amour et du hasard de questionner, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille qui commence par, sinon refuser, en tout cas demander à son père de mettre à l'examen, de mettre à la question le fiancé qu'il lui propose. Tout ceci étant précédé par une longue et très très belle scène avec sa suivante, où Sylvia se plaint des hommes, se plaint du malentendu prévisible. Elle part de l'expérience de ses amis mariés, qui, à sa connaissance, sont toutes infiniment malheureuses pour des raisons diverses. Donc elle a peur peut-être, en tout cas, de faire sa vie avec un homme, peut-être même de l'homme, fondamentalement. Qu'est-ce que c'est que cette peur de l'autre, qui est à l'origine de ce qu'il faut bien appeler l'intrigue? Qu'est-ce que c'est que cette peur tout à fait symétrique chez l'homme, chez Dorante? Et la symétrie est un des éléments peut-être problématiques de la perfection chez Marivaux. Donc, j'ai essayé d'interroger vraiment ce préalable panique chez l'un et chez l'autre concernant l'hypothèse d'aimer. Tout le théâtre de Marivaux, en tout cas le théâtre qui a trait au registre amoureux, il y a aussi le théâtre des îles, le théâtre philosophique, le théâtre social, mais pour nous en tenir au théâtre dit de la surprise amoureuse et de la façon dont les protagonistes finissent par consentir à cette surprise après un terrible combat qui livre moins contre l'autre que contre eux-mêmes, car aimer c'est se renoncer d'une certaine façon. Ou plus exactement, c'est s'accomplir en intégrant l'autre. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Enfin, c'est le terrible combat de l'amour contre l'amour propre. Le renoncement apparent à une identité au profit d'un inconnu qui sera cette identité nouvelle, différente, fusionnelle. Bon, c'est le grand combat marivaudien.
Vous avez la plus belle santé.
Il est bien question de ma santé. C'est l'air de la campagne.
L'air de la ville, vous faites même l'œil le plus vif, le teint le plus frais.
Oui, je me porte assez bien. Mais Marquis, savez-vous bien que vous me dites des douceurs sans y penser?
Pourquoi sans y penser? Moi, j'y pense.
Gardez-la pour la personne que vous aimez.
Bah, si c'était vous, il n'y aurait que faire de les garder.
Comment, si c'était moi? Est-ce de moi dont il s'agit? Est-ce une déclaration d'amour que vous me faites?
Point du tout.
De quoi vous avisez-vous alors de m'entretenir de mon teint, de ma santé? Mais qu'est-ce qui ne s'y tromperait pas?
Ce n'est qu'une façon de parler. Je dis seulement qu'il est fâcheux que vous ne vouliez ni aimer ni vous remarier, que j'en suis mortifié parce que je ne vois personne qui puisse convenir autant que vous. Mais je ne dis mot de peur de vous déplaire.
Oh, belle chute! Vous êtes bien singulier.
Et vous êtes bien mauvaise humeur. Ah, tout à l'heure, à votre avis, on avait si bonne grâce à dire naïvement qu'on aime. Vous voyez comme cela me réussit. Me voilà bien avancé.
Ne m'avez-vous pas bien reculé? À qui en avez-vous? Je vous demande à qui vous parlez.
À personne, madame. Je ne dirai plus mot. Êtes-vous contente? Si vous vous mettez en colère contre tous ceux qui me ressemblent, vous en querellerez bien d'autres.
Mais quel original! Et qui est-ce qui vous querelle? Parlez! C'est une grâce que vous ne me refuserez pas, puisque vous dites que vous m'aimez.
Mais vraiment, oui, je vous aime.
Là, on a un exemple très bon du marivaudage. Belle santé, santé, sans y penser, penser, si c'était vous, si c'était moi. Mais que voit-on, en fait? C'est que les personnages se livrent à une sorte de combat par le truchement des mots. Et chacun essaye d'amener l'autre à se déclarer. Chacun n'ose pas se dire amoureux s'il n'est pas sûr que l'autre va l'aimer et lui dire en premier qu'il l'aime. Si bien que la plupart des pièces d'amour de Marivaux se terminent par un aveu qui n'est pas dans la reprise de mots, même si on a vu ici combien ça progresse, mais qui est du niveau de la communication non-verbale. Par exemple, dans La surprise de l'amour, c'est par un agenouillement que l'amoureux capitule. Et quand la femme qu'il aime lui dit « relevez-vous », le spectateur comprend que ça y est, maintenant elle sait que le personnage l'aime, elle le lui a déclaré, mais il n'a pas pu le faire par les mots. Ailleurs, c'est « vous rougissez, chevalier », et c'est tout dire, car on ne peut pas tricher avec la rougeur. Et Marivaux est très fin parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a une forme de communication qui ne peut pas être maîtrisée par la conscience. Il voit combien les personnages se sont fait une carapace de mauvaise foi, une sorte de protection, une barrière.
Mais le corps déborde.
Mais le corps dit beaucoup plus. Ça, c'est une façon assez nouvelle d'aller observer ces échanges marivaudiens. On a pu observer aussi combien Marivaux joue des déplacements. Et j'aime beaucoup cette réplique, je ne sais plus de qui elle est, d'une femme qui dit « feignons de partir afin qu'il m'arrête ». C'est-à-dire afin qu'il me retienne et me fasse revenir. C'est une façon de dire « mon déplacement par mes pas va faire en sorte qu'il prendra peur et qu'il se sentira obligé de parler et de me dire plus clairement ses sentiments ». C'est ça que j'appelle la communication non-verbale et le poids de tout ce qui se passe en scène et qui fait qu'on ne peut pas réduire à simplement l'analyse du texte ce que Marivaux a imaginé.
Un exemple, c'est dans le Prince travesti.
Qu'attendez-vous de moi, que je le lise?
Oui, je veux bien. Oh, c'est juste par là, je crois. Hein.
Je n'ai pas en tête, évidemment, ce moment. Donc, Lélio dit à Hortense, qui le regardait de côté, les didascalies de Marivaux. Il y en a peu, elles sont très... Hortense, le regardant de côté, « Vous ne m'avez donc point oublié ?» Et Lélio, « Non, madame, je ne l'ai jamais pu. Et puisque je vous revois, je ne le pourrai jamais. Mais quelle était mon erreur quand je vous quittais ? Je crus recevoir de vous un regard dont la douceur me pénétra, mais je vois bien que je me suis trompé. Je me souviens de ce regard-là, par exemple. Lélio, et que pensiez-vous, madame, en me regardant ainsi ? Hortense, je pensais apparemment que je vous devais la vie. Lélio, c'était donc une pure reconnaissance ? Hortense, j'aurais de la peine à vous rendre compte de cela. J'étais pénétré du service que vous m'aviez rendu, de votre générosité. Vous alliez me quitter, je vous voyais triste. Je l'étais peut-être moi-même. Je vous regardais comme je pus, sans savoir comment, sans me gêner. Il y a des moments où des regards signifient ce qu'ils peuvent. On ne répond de rien, on ne sait point trop ce qu'on y met. Il y entre trop de choses et peut-être de tout. Tout ce que je sais, c'est que je me serais bien passé de savoir votre secret. Etc., etc. Il y a une mauvaise foi de l'être marivaudien. Je dis faux pour savoir le vrai. C'est un mélange inextricable de vrai qui m'échappe et de faux que j'essaie de maîtriser. Je me serais bien passé de savoir votre secret. Je suis ravi de le savoir. Mais dès l'instant que vous me dites que dans ce secret il y avait de l'amour pour moi, alors ce que je dis du regard que j'ai posé sur vous, j'en suis confus, je le regrette, etc. En fait, pas vous. Il y a une ivresse marivaudienne.
Quand mon pied fut en état, voilà le chirurgien qui l'examine et qui le tâte. Le bonhomme, pour mieux juger du mal, se baissait beaucoup, parce qu'il était vieux. Et Valville, en conformité de gestes, prenait insensiblement la même attitude et se baissait beaucoup aussi, parce qu'il était jeune. Car il ne connaissait rien à mon mal, mais il se connaissait à mon pied et m'en paraissait aussi content que je l'avais espéré. Pour moi, je ne disais mot et ne donnais aucun signe des observations clandestines que je faisais sur lui.
Il n'aurait pas été modeste de paraître soupçonner l'attrait qui l'attirait. Et d'ailleurs, j'aurais tout gâté si je lui avais laissé apercevoir que je comprenais ses petites façons. Cela m'aurait obligé moi-même d'en faire davantage. Et peut-être aurait-il rougi des siennes. Car le cœur est bizarre. Il y a des moments où il est confus et choqué d'être pris sur le fait quand il se cache. Cela l'humilie. Et ce que je dis là, je le sentais par instinct. J'agissais donc en conséquence, de sorte qu'on pouvait bien croire que la présence de Valville m'embarrassait un peu, mais simplement à cause qu'il me voyait, et non pas à cause qu'il aimait à me voir.
Pour cacher quelque chose, il faut forcément produire, en lieu et place de cette chose, quelque chose qui soit une illusion.
Ariel Meyer.
Et c'est avec cette sorte de dialectique, comme ça, entre le secret et l'illusion, que travaillent toutes les pièces de Marivaux, où il y a toujours une façon de cacher ses sentiments, son identité, sa condition sociale vis-à-vis d'un autre personnage. Et donc, pour cela, il faut jouer un rôle, jouer à être un homme lorsque l'on est une femme, c'est le cas dans la fausse suivante, jouer à être les maîtres lorsqu'on l'on est les valets, et inversement, comme dans la double inconstance et dans les jeux de l'amour et du hasard. Et on se rend compte effectivement que ce secret qui est mis en scène de cette façon produit quelque chose comme une théâtralité à l'intérieur même des pièces de Marivaux. Et c'est en cela que Marivaux est vraiment intéressant, parce que cette théâtralité, elle remplit à la fois le théâtre, mais aussi le roman qui précède Marivaux. Tout le courant baroque n'est fait que de cette théâtralité et de ce jeu avec l'illusion qui permet justement de ne vivre que dans l'apparence. On a quand même toute cette période du XVIIe siècle qui est vraiment le siècle du théâtre, parce que le monde à ce moment-là se pense comme un théâtre et que l'homme se vit comme un acteur perpétuel. Et donc, ce qui est vraiment particulier à Marivaux, c'est qu'il continue à utiliser vraiment comme moteur de son théâtre ces jeux avec l'illusion, mais qu'il les utilise justement pour accéder à quelque chose de l'intériorité, des sentiments, ce qui est effectivement très nouveau. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans cette balance entre l'illusion et le secret, on peut dire qu'avant Marivaux, au fond, c'est l'illusion qui prime. Si vous prenez les comédies de Shakespeare, on voit bien que les personnages de Shakespeare, lorsqu'ils se travestissent, finalement, se travestissent plus par goût du jeu que par besoin de cacher quelque chose. Alors même si on a toujours besoin de l'été du secret pour arriver à produire cette illusion, pour arriver à être ces personnages, eh bien néanmoins, ce n'est pas ce qu'on cache qui intéresse, par exemple, Comme il vous plaira, de Shakespeare, où on a effectivement ce personnage de Rosalind qui se travestit plusieurs fois, etc. Ça n'est pas ce qu'on cache, mais c'est bien ce qu'on montre qui intéresse cette littérature-là. Alors que chez Marivaux, on assiste à une sorte de mouvement qui va se retourner et va donner, après toute l'intériorité romantique et dans le roman également, eh bien on assiste à ce mouvement de balancier où ce qui l'intéresse, c'est certes l'illusion, il aime aussi jouer avec ces jeux-là, mais c'est aussi ce qu'on cache, et comment ce qu'on cache va finalement petit à petit apparaître, et comment on va reconnaître ce qui est caché, et quel est l'effet du travestissement sur la personne qui est en face, par exemple. Est-ce qu'elle va être dupe? Est-ce qu'elle ne va pas être dupe? Comment le secret va filtrer aussi? Est-ce que il va filtrer petit à petit? Chez Shakespeare, on se travestit, et puis tout à coup, à la fin, il y a un grand retournement, et puis d'un coup, l'identité réelle apparaît. Mais le parcours du secret, c'est-à-dire comment il va filtrer petit à petit, comment certains personnages vont en avoir connaissance, et puis d'autres, et comment le fait que certains personnages en aient connaissance va justement modifier cette position vis-à-vis du savoir pour arriver finalement à la vérité, eh bien ça c'est quelque chose qui est tout à fait propre à Marivaux et qui marque une vraie étape dans l'histoire de la littérature.
Chez Marivaux, on finit par tomber amoureux, ce qui n'est pas du tout exploré avant lui. On est surpris et finalement on tombe amoureux. Il est parti de tomber malade. C'est pas une pure invention, c'est une extension du sens. Mais justement, c'est caractéristique. On tombe malade sans le vouloir. Et on tombe amoureux sans le vouloir. Quelquefois sans trop le savoir. C'est l'étude de tous les cheminements par lesquels on parvient à une sincérité. Ça finit par un aveu. Je vois clair dans mon cœur. Mais pouvoir clair dans leur cœur, évidemment, il faut qu'ils passent par beaucoup d'ombre.
C'est le grand étonnement, le grand théâtre de la surprise, enfin de l'étonnement. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Il m'arrive d'être. Je ne savais pas jusque-là. J'existais, et j'existais souvent en accord avec ma condition, avec mon environnement, avec mes... Et tout d'un coup, au prix de l'immense bouleversement, de l'immense ébranlement, d'un sentiment qui me submerge, dont je ne veux pas, d'un pouvoir que l'autre se met à exercer sur moi, je nais à la conscience d'être. Ça ne dure pas très longtemps chez Marivaux. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'une... Se marier et eurent beaucoup d'enfants. Le théâtre de Marivaux s'inscrit dans la brève, dans la très brève durée de sa naissance à son consentement. Enfin, voilà. J'éprouve, j'en suis étonné. J'en suis contrarié et je me rends. Et cette défaite est ma victoire. Et cette défaite est la condition de ma seconde naissance, de ma nouvelle naissance au monde. Je pense que fondamentalement, le théâtre de Marivaux, c'est ça.
Peut-être une idée qui serait commune à toute son œuvre, c'est ce que vous dites de la représentation de la vie intérieure. La représentation, ben, c'est bien sûr celle du théâtre, mais c'est aussi la représentation romanesque...
Voilà, et puis alors là on est à un niveau vraiment très profond de l'œuvre de Marivaux hein, quand on aborde cette question de représentation. Pour ma part, j'aime bien parler aussi de parole en représentation, hein, c'est-à-dire que c'est toujours une parole qui est montrée à quelqu'un, qui s'adresse à quelqu'un. Et il y a toujours pour Marivaux quelque chose du paradoxe et du défi, hein, puisque à partir du moment où je représente ma vie intérieure, elle devient commune puisque quelqu'un d'autre peut la regarder. Et est-ce que elle est encore vraie, hein, c'est-à-dire une fois qu'elle est représentée, est-ce que le sujet n'a pas changé ou est-ce que il ne va pas se réfugier vers quelque chose qui est à côté ou en dehors de sa représentation? Donc, alors justement, le recours à la fiction pour Marivaux pourrait s'expliquer aussi dans la perspective que vous ouvrez, hein, qui est le sujet qui parlerait, disons, de lui-même, pourrait se cacher lui-même derrière cette représentation de sa vie intérieure, paradoxalement, tandis que le romancier, l'écrivain, peut montrer comment cette représentation elle-même révèle quelque chose presque à l'insu du sujet. Hein. Il y a aussi l'idée que nous nous révélons malgré nous.
Il est en interrogation perpétuelle, Marivaux, que ce soit dans son théâtre ou dans ses romans ou...
Il y a justement toujours cette inquiétude de l'inauthenticité, hein, d'une représentation qui ne serait plus exacte, mais qui serait au contraire un écran, et puis de ce que c'est toujours en train de changer. Donc, à peine on croit saisir quelque chose, mais en fait, non, ça a déjà bougé. Hein. Il y a cette idée de mobilité qui lui est très très sensible et qui fait que, eh bien, on est toujours porté en avant, effectivement.
Je n'osais le regarder, ce qui faisait que j'en mourrais d'envie. Aussi le regardais-je, toujours en osant. Et je ne sais ce que mes yeux lui dirent, mais les siens me firent une réponse si tendre qu'il fallait que les miens l'eussent méritée. Cela me fit rougir et me remua le cœur à un point qu'à peine m'aperçus-je de ce que je devenais. Je n'ai de ma vie été si agitée, je ne saurais vous définir ce que je sentais. C'était un mélange de trouble, de plaisir et de peur. Oui, de peur. Car une fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela la mène. Ce sont des mouvements inconnus qui l'enveloppent, qui disposent d'elle, qu'elle ne possède point, qui la possède. Et la nouveauté de cet état l'alarme. Il est vrai qu'elle y trouve du plaisir, mais c'est un plaisir fait comme un danger. Sa pudeur même en est effrayée. Il y a là quelque chose qui la menace, qui l'étourdit et qui prend déjà sur elle. On se demanderait volontiers dans ces instants-là, que vais-je devenir ? Car en vérité, l'amour ne nous trompe point. Dès qu'il se montre, il nous dit ce qu'il est et de quoi il sera question. L'âme, avec lui, sent la présence d'un maître qui la flatte, mais avec une autorité déclarée qui ne la consulte pas et qui lui laisse hardiment les soupçons de son esclavage futur. Voilà ce qui m'a semblé de l'état où j'étais.
Et je pense aussi que c'est l'histoire de toutes les jeunes personnes de mon âge, en pareil cas.
Travailler vraiment sur le théâtre de Marivaux, c'est découvrir que il n'y a pas de langue plus directe, il n'y a pas de langue qui va plus droit au but, qui va plus vite qu'elle, pour désigner une sensation, pour désigner une pensée. Simplement, je le répète, il s'avance sur des terrains qui, avant lui, n'avaient jamais été explorés. Donc, c'est pas la langue qui est contournée et précieuse, c'est ce dont il parle qui est rare et inconnu. Mais quand on accepte ça, on s'aperçoit que il faut jouer ce théâtre prestement. C'est un théâtre qui va vite à l'essentiel. Il n'y a pas plusieurs façons de dire. Il y a quelques figures, mais Marivaux sait s'amuser. Marivaux a l'humour quelquefois. Il a mis aussi en œuvre des personnages qui, d'une certaine façon, sont presque les caricatures marivaudiennes. Enfin, il a mis en scène lui aussi des précieux, des gens qui trichent avec eux-mêmes. Mais quand il nous parle des gens qui sont réellement aux prises avec le trouble, avec la bouleversante sincérité, le bouleversant dénuement, la fragilité, la vulnérabilité de ceux qui traversent l'extraordinaire aventure de la rencontre, de la surprise et de l'amour, Marivaux va très très vite et il ne dit que ce qu'il faut dire. Donc cette préciosité, il ne faut surtout pas la relayer formellement, il ne faut surtout pas la relayer dans je ne sais quel après du jeu. C'est un théâtre direct, un théâtre qui dit simplement des choses, alors par contre, quelquefois très compliquées. Parce que le cœur humain, c'est très compliqué. Là, on passe de Marivaux à Sarraute, enfin, c'est... Il n'y a rien de plus compliqué que nous-mêmes, que la façon dont les sensations, dont les sentiments, dont les pensées naissent en nous et s'enrichissent et se stérilisent et meurent et sont remplacées. Pour parler de ça, oui, c'est difficile. Et donc... De ça qui est souvent d'avant même la conscience. Avant même la conscience que nous en avons. Marivaux parle déjà. Il parle essentiellement de ce que nous ne savons pas encore. Ça, c'est très difficile de parler de ça, de donner un nom à ça. Mais ce n'est pas la langue qui est difficile. Ce n'est pas la langue qui est complaisante et contournée, me semble-t-il.
Oui, tout bien pesé, je crois que nous ferons bien de suivre les termes de votre billet.
Oh, de tout mon cœur. Allons, monsieur, ne nous voyons plus. Je fais présent de 100 pistoles au neveu de mon fermier. Vous me ferez savoir ce que vous voulez donner à la fille et je verrai si je souscrirai à ce mariage dont notre rupture va lever l'obstacle que vous y avez mis. Adieu, monsieur, soyons-nous inconnus l'un à l'autre. J'oublie que je vous ai vu, je ne vous reconnaîtrai pas demain.
Et moi, madame, je vous reconnaîtrai toute ma vie. Vos manières avec moi vous ont gravé pour jamais dans ma mémoire.
Vous me donnerez la place qui vous plaira. Je n'ai rien à me reprocher. Mes façons étaient celles d'une femme raisonnable.
Morbleu, madame, vous êtes une dame raisonnable à la bonne heure. M'accordez donc cette lettre avec vos offres d'amitié. Cela est inconcevable. Alors aujourd'hui, votre ami, demain, rien. Mais pour moi, madame, je ne vous ressemble pas. Et j'ai le cœur aussi jaloux en amitié qu'en amour. Ainsi, nous ne nous convenons point.
Adieu, monsieur. Vous parlez d'un air bien dégagé. Et presque offensant. Si j'étais vaine, cependant, si j'en crois Colombine, je vaux quelque chose, à vos yeux même.
Un moment. Vous êtes de toutes les dames que j'ai vues, celle qui vaut le mieux. Je sens même que j'ai du plaisir à vous rendre cette justice-là. Colombine vous en a dit davantage. C'est une visionnaire, non seulement sur mon chapitre, mais encore sur le vôtre, madame, je vous en avertis. Ainsi, n'en croyez jamais au rapport de vos domestiques.
Comment... Que dites-vous, Colombine ? Vous aurez fait entendre que... Oh, l'impertinente ! Colombine !
Que voulez-vous, madame ?
Ce que je veux !
Si vous ne voulez rien, je m'en retourne.
Parlez ! Quel discours avez-vous tenu à monsieur sur mon compte ?
Des discours très sensés, à mon ordinaire.
Je trouve bien hardi d'oser, suivant votre petite cervelle, tirer de folles conjectures de mes sentiments. Je voudrais bien vous demander sur quoi ? Vous avez compris que j'aime monsieur. À qui ? Vous l'avez dit ?
N'est-ce que cela ? Oh, mais je vous jure que je l'ai cru comme je l'ai dit.
Je l'ai dit pour le bien de la chose. C'était pour abréger votre chemin à l'un et à l'autre. Car vous y viendrez, tous deux.
Toute pièce est fondée là-dessus, sur qu'est-ce qui va arriver. Marivaux sait nous tenir en haleine, après avoir essayé de toutes les manières d'échapper à son chasseur, la proie consent. Car les comparaisons avec la chasse sont très pertinentes chez Marivaux. Sous la douceur, sous la caresse des mots, il y a une formidable violence des sentiments, des désirs, une urgence. C'est un théâtre de chasseurs, c'est un théâtre au sens où on a pu parler évidemment du libertinage comme conquête de sa proie. Mais en plus, Marivaux substitue, en tout cas, je ne crois pas solliciter le texte, il substitue in fine un autre dénouement à celui que nous attendions et qui pourrait suffire. La fausse suivante, que j'ai montée à mon tour à la Comédie-Française, c'est pareil. Une jeune femme, toujours la même motivation, se voit proposer un fiancé. Elle a la curiosité. Marivaux, c'est le premier, probablement, auteur féministe. C'est le premier auteur à revendiquer une émancipation, un exercice d'une liberté pour la femme, et en particulier dans la relation amoureuse. Cette jeune femme dit « c'est bien beau, mais moi je ne connais pas ce type, je ne suis pas sûr du tout de l'aimer. Donc je me déguise en jeune homme et je me proclame l'ami de ce jeune homme rencontré dans un bal il y a pas. » Elle découvre que ce jeune homme est un type terrible, sans scrupules, cynique, chasseur de dot. Et elle s'assigne un but, la punition du méchant. Ça, c'est officiel. La pièce finira quand la jeune fille quittera son travesti et dira la vérité. Dira à son pseudo-fiancé « Vous êtes une canaille » et à sa victime, la comtesse « Vous l'avez échappé belle, madame, à l'avenir, soyez plus... » Mais la vraie fin de la fausse suivante, c'est que Lélio, le libertin Lélio, le cynique Lélio, le dangereux Lélio est infiniment plus séduisant que le jeune homme vertueux qu'apparemment la jeune fille souhaitait pour fiancé. Et je suis à peu près sûr qu'elle part avec lui.
Swing Time d'Aster et Rogers. Dans Swing Time, il n'y a pas de baiser. Eh bien, alors voilà comment ça se passe dans Swing Time. Le garçon ne veut pas se déclarer. Alors, la jeune fille se voit conseillée par son ami d'aller l'embrasser. Il est en train de se préparer pour entrer en scène, en train de se mettre en noir d'ailleurs, parce qu'il va jouer Bo Jangles. Et alors, elle arrive, elle est très jolie, très bien habillée, et puis, naturellement, elle n'a pas le courage de l'embrasser. Et alors elle dit, comment trouvez-vous ma robe? Ah, elle est très jolie. Et la cape, etc. Et la jeune fille aussi. Et alors, à ce moment-là, elle va avoir le courage. Mais il y a une porte qui s'ouvre et qui les cache. Et entre leur impresario, qui ne voit rien, il ressort. Puis, il est surpris tout de même, il revient. Et à ce moment-là, il regarde derrière la porte et asserre le rouge, le ginger, et l'air complètement idiot. Voilà, il n'y a pas eu de baiser. Ça, c'est digne de Mario.
Avec Frédéric Deloffre, Jacques Lassalle, Éric Massé, Ariel Meyer, Catherine Nicolas, Françoise Rubellin, Jean-Paul Sermin. Les textes de Marivaux sont lus par Aurélie Rusterholt et Eliezer Mellul. Extrait de L'île des esclaves, mise en scène d'Éric Massé, donné à la Comédie de Saint-Étienne au mois de décembre 2005. Archives INA, Martine Auger. La bibliographie est à retrouver sur le site de France Culture, à l'émission Une vie, une œuvre. Prise de son, Claire Vuillot-Morel, Laurent Lucas, Yves Lehorse. Mixage, Marie-Dominique Bougot. une émission de Simone Douek, réalisée par Brigitte Bouvier.
Une vie, une œuvre, Marivaux, était diffusée le 5 février 2006.